Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cet été, il y a exactement 2 ans, un commando djihadiste attaqué à l'arme automatique le Bataclan pendant un concert de rock. Des bars du même quartier de l'Est parisien étaient également attaqués, tandis que des kamikazes se faisaient exploser à proximité du Stade de France où le président de la République de l'époque, François Hollande, assistait à un match de football international. La France entrait ce soir-là en état d'urgence. Elle n'en est sortie que le 1er novembre dernier. Dans l'intervalle, d'autres attaques ont eu lieu. Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray et plus récemment Marseille. Nouvelle loi antiterroriste est entrée en vigueur. La France est-elle mieux préparée au risque terroriste? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, 2 invités nous ont rejoints dans ce studio. Juliane Pinsard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, qui est traditionnellement classé à gauche. Et Guillaume Ricouard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de police et membre du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Sur le plan juridique, la France, on le disait, vient d'adopter une nouvelle loi antiterroriste. La France est-elle mieux armée contre le terrorisme? Juliane Pinsard.
Alors indéniablement, la France est mieux armée et surarmée, je dirais. Depuis 2012, donc en 5 ans, la France a adopté 9 lois antiterroristes ou qui contiennent en tout cas des dispositions.
C'est même 22 depuis 30 ans. 22 depuis 30 ans, ça fait beaucoup, voilà. Et donc ça vous paraît pas raisonnable?
Ça paraît surtout comparé à nos homologues européens, mais même dans le monde, la France dispose d'une des législations antiterroristes les plus développées, et sur certains points, elle est plus développée que les États-Unis, par exemple. Et ça pose le problème de l'équilibre, de la proportionnalité. Les atteintes qui sont portées aux libertés par la dernière loi antiterroriste qui a intégré en réalité les dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun, mais également de notre conception du droit pénal. Les lois antiterroristes ont intégré désormais des infractions qui pénalisent non plus l'acte, mais le comportement et même l'entente, enfin bon, voilà, l'idéologie, on va dire ça comme ça. Ça change notre mode, intégralement ça a changé notre mode de pensée.
Alors, je vous pose la même question, Guillaume Ricouard. Est-ce que la France est mieux armée qu'il y a 2 ans contre le terrorisme? Est-ce que cette nouvelle loi vous paraît de nature à donner des moyens juridiques supplémentaires à la lutte contre le terrorisme?
Effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de lois un temps, mais la dernière qui est en vigueur depuis le 1er novembre est certainement la plus modérée et la plus utile pour les services de police. C'est un bon contrepoids à l'état d'urgence qui était peut-être un peu excessif pendant 2 ans. Après, la loi, ce n'est pas tout, hein. C'est aussi les modes de fonctionnement, les méthodes de travail, les structures des services, et sur ces aspects-là, on a encore des efforts à faire dans les mois et les années à venir. Et c'est notre tâche, à nous policiers, à nous magistrats, à nous syndicalistes aussi, d'évoluer sur ces domaines-là et d'être encore plus pragmatiques dans les modes de fonctionnement.
Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Juliane Pinsard. Cette dernière loi, vous le disiez, a instauré dans le droit commun des éléments de l'état d'urgence. Et pourtant, ça n'a suscité que peu de réactions dans l'opinion, malgré la mobilisation des organisations de défense des libertés. Pourquoi les gens ont peur? Ils veulent de la sécurité avant de la liberté?
En tout cas, le discours du gouvernement est celui-là. Le discours, Gérard Collomb a dit lui-même que la première des libertés, c'était la sécurité. Bon, il est ministre de l'Intérieur.
Il reprend une grande tradition de déclaration des ministres de l'Intérieur dans ces dernières années.
La communication du gouvernement a été très efficace sur ce point, puisque il n'a cessé de dire que déjà d'une part, c'était pas totalement l'état d'urgence qui était repris. Enfin, quand même, c'est l'état d'urgence à quelques nuances près, et a insisté sur le fait que l'équilibre était maintenu, qu'on allait viser que les actes terroristes, qu'on introduisait du juge. En réalité, si je peux, par exemple, sur ce dernier point, l'introduction du contrôle du juge. En réalité, ça ne concerne que du juge judiciaire, j'entends.
Oui.
Ça ne concerne que les mesures de perquisition. C'est un contrôle a posteriori. Donc, non, ça, pour le coup, c'est, pardon, c'est un contrôle a priori.
Avec une autorisation du juge des libertés et de la détention, impossible appel de l'ordonnance du juge, la présence d'un conseil à l'occasion de la perquisition, ce qui n'existe pas dans la procédure pénale classique. Donc, en termes de protection des droits, on est plus protégé que dans le droit commun dorénavant.
Sauf qu'en réalité, donc, pardon.
Oui, allez-y. Vous êtes là pour ça.
Le contrôle du juge ne se fera que sur les éléments qui sera dans le dossier. Et en réalité, ça sera les éléments des services de renseignement, les notes blanches. Et c'est le principe des renseignements. C'est qu'on ne connaît pas la source des informations. On ne sait pas comment elles ont été obtenues. Et donc, on ne peut que se baser sur...
N'oubliez pas que c'est le procureur de la République qui autorisera ces perquisitions. Donc, s'il n'a pas envie, sur la base d'une note blanche, d'autoriser la perquisition, il la refusera.
En réalité, du coup, ça pose...
Est-ce qu'on peut raisonnablement, je vous pose la question, Guillaume Ricoeur, refuser une perquisition antiterroriste vu ce qui s'est passé France, vu les enjeux, vu ce qui s'est passé en France depuis deux ans?
Bah, vous me direz, et c'est, je pense que la répartie que vous aurez à mon égard, c'est de dire, bah, pourquoi pas une procédure judiciaire avec une perquisition judiciaire dans ces cas-là? Oui, pourquoi pas? Bah, le procureur décidera cela. Mais je pense que dans le cadre de l'urgence et de la prévention, par exemple, à la suite d'un attentat qui pourrait avoir lieu dans un pays limitrophe à la frontière de la France, c'est important pour la justice et pour les services de police de pouvoir réagir rapidement dans la demi-heure ou dans l'heure.
Mais la perquisition judiciaire faire peut cette perquisition. Être faite rapidement, elle est à l'initiative des
vous savez
des
combien de temps
de
vous
police.
Savez mieux que moi combien de temps prend une commission rogatoire internationale pour réaliser une perquisition par exemple, et vous savez très bien que la perquisition administrative on pourra la faire dans la demi-heure, la perquisition judiciaire dans le cadre d'une CRI ça se comptera plutôt en semaine.
Alors justement voilà, c'est une question que je voulais vous poser, Julien de Pinsard, est-ce que la rapidité de réaction qui est déterminée d'ailleurs, c'était un des grands enseignements du massacre du Bataclan. Est-ce que c'est compatible avec le travail de la justice? Est-ce que le temps de l'enquête judiciaire dans cette lutte antiterroriste est adapté?
La justice, alors Dieu sait si effectivement la justice peut être lente.
On est d'accord.
La justice est organisée de telle manière qu'il y a des permanences, qu'elle est habituée, elle est là aussi pour gérer l'urgence. Les services du parquet, notamment, gèrent l'urgence en permanence. Et autoriser une perquisition judiciaire, d'ailleurs, déjà, la perquisition judiciaire, elle est aussi d'initiative policière, et ça ne prend pas matériellement de temps.
Vous savez très bien que moi, ça implique d'abord une interpellation, en général une garde à vue, la notification des droits, l'appel à un médecin, l'appel à un avocat, et puis ensuite on va dans un domicile pour réaliser la perquisition. Donc en termes de temps, c'est beaucoup plus long.
Guillaume Ricoeur, qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement des services de sécurité depuis deux ans? Comment est-ce qu'on s'est adapté à la menace, à différentes sortes de menaces de l'extérieur, hein, avec des cellules comme les attentats du 13 novembre par exemple, ou la menace intérieure? Comment est-ce que ça a changé?
Je pense qu'on est meilleur en termes de force d'intervention et en termes de capacité opérationnelle en la matière. En termes de renseignement, on s'est amélioré depuis 2015. C'est vraiment en 2015 qu'on a pris conscience de ce qui était la réalité du terrorisme islamique. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière, notamment en termes de culture du renseignement, qui est davantage rattachable à la délinquance de droit commun ou la délinquance plus organisée, la criminalité organisée. Sur ces plans-là, on a encore des sources d'amélioration à avoir. Et puis, je pense aussi, c'est une donnée importante, il ne faut pas distinguer complètement le terrorisme du reste de la délinquance. Le terrorisme est une émanation plus spécifique d'une criminalité organisée. Et c'est en étant efficace aussi sur la délinquance de droit commun, ça passe par la simplification de la procédure pénale, ça passe par l'amélioration de la qualité du travail des services de renseignement. Tous ces aspects-là, si on arrive encore à s'améliorer, on pourra encore être meilleur par la suite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est une chose importante, hein, j'insiste sur ce point-là. Le terrorisme actuel, à l'inverse du terrorisme identitaire du passé, qui visait davantage les groupes très ciblés dans des régions très ciblées, ici, il correspond vraiment à la délinquance de droit commun. Et donc, ça implique tous les services départementaux de renseignement.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la délinquance de droit commun nourrit le terrorisme avec la fourniture d'armes, par exemple, des choses comme ça?
C'est exactement ça. Prenons trois exemples, c'est Charlie Hebdo, c'est le Bataclan et c'est les attentats de Barcelone. Très clairement, dans ces trois attentats, on a un mode d'organisation qui rappelle clairement le narco-banditisme. Voiture de location, carte SIM dédiée, Kalachnikov, ceinture d'explosifs.
Ce sont les méthodes du grand banditisme.
C'est des méthodes du grand banditisme, très clairement.
Julian Pinsard, vous en avez parlé un tout petit peu. Est-ce que c'est de la justice préventive qu'on vous demande ? Est-ce qu'on vous demande de condamner ou d'enquêter avant la commission d'un crime ? C'est ça, finalement ?
C'est exactement ça. L'association de malfaiteurs terrorisme, c'est l'entente formée en vue de la préparation d'une infraction terroriste. La plupart des infractions, et ça paraît logique, hein. Pour le coup, le terrorisme, s'il s'agit de s'attaquer au terrorisme une fois que l'attentat a eu lieu, ça n'a plus grand sens, on est bien d'accord là-dessus. La difficulté, en réalité, c'est que c'est la frontière à ne pas franchir, qu'il ne faut pas franchir entre l'acte et la pensée. On ne pénalise pas une simple intention, il faut que ça se matérialise.
Même question qu'à Guillaume Ricouart, comment est-ce que la justice française s'adapte depuis 2 ans pour essayer de devancer la commission des crimes ?
Elle est dotée, suite à l'ensemble des lois antiterroristes, à l'ensemble des moyens de surveillance, écoute téléphonique, INSI catcher, la possibilité donc d'intercepter.
Ça, c'est le fameux moyen d'écoute qui avait posé beaucoup de problèmes à l'époque où il avait été mis en place, où on pouvait écouter à peu près toutes les conversations téléphoniques.
Ça permet d'intercepter un certain nombre de communications en passant par les ondes, etc. Enfin, c'est moins lourd, en tout cas, en mise en place, en mise en œuvre qu'un dispositif d'écoute. Les moyens d'enquête, les techniques d'enquête ne cessent de se renforcer. L'appréhension judiciaire, d'ailleurs, les attentats qui sont déjoués le sont la plupart du temps à l'issue d'enquêtes judiciaires. Les moyens de la justice ne sont pas, à mon avis, moins bons que ceux de l'administration. En revanche, qu'il faille sans doute améliorer les techniques de renseignement. Mais la difficulté de la justice judiciaire, c'est l'intégration des renseignements pour quand même assurer des garanties aux personnes qui sont poursuivies et qui sont mises en cause, parce que on n'est pas à l'abri non plus de dénonciations qui pourraient être calomnieuses. Enfin,
après, c'est une question de confiance aussi entre les services de police et les services de justice. J'ai été, par exemple, chef d'un service de renseignement pendant 3 ans en Seine-Saint-Denis. Et une des dispositions de la loi actuelle, c'est la fermeture des lieux de culte. À l'époque, il a été impossible pendant 3 ans de fermer un lieu de culte en Seine-Saint-Denis, malgré des preuves apportées par le biais, effectivement, de notes blanches, mais qui elles-mêmes étaient des éléments provenant de sources humaines. Et les juges avaient...
Qui ne sont pas connus par les juges.
Pas connu, mais après c'est une question de confiance. On a le choix. Soit on ferme le lieu de culte et on fait confiance aux services de police, soit on laisse ouvert, on laisse les islamistes en liberté en se disant bah, de toute façon les policiers sont des menteurs. C'est un choix à faire.
Est-ce que finalement on n'est pas sur les mêmes problématiques que sur lesquelles on a toujours été entre la police et la justice ? Ce problème justement de confiance quelque part ?
Je pense pas qu'il y ait un problème de confiance entre la police
existé,
et la justice.
Non, mais ça a déjà existé, Julien Pinsard.
La question, c'est la possibilité que les gens ont de se défendre. Ce n'est pas possible de contrer une affirmation d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi l'un des problèmes.
C'est dénaturer le principe même des services de renseignement.
Alors, oui, j'entends bien que c'est la nature même des services de renseignement, mais c'est bien ce qui pose problème dans...
Vous contestez l'existence des services de renseignement ?
Non, la question c'est comment on exerce un contrôle sur... C'est l'office même du juge, hein, c'est d'exercer un contrôle aussi sur l'activité des services de police, enfin, sinon on n'a plus de juge.
Julian Pinsard, vous parliez tout à l'heure des moyens, vous disiez que finalement la justice était suffisamment dotée, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux, chacun dans votre domaine, les moyens... Juridiquement, ça on en a parlé. Les moyens financiers, en équipement, en personnel, sont-ils suffisants ? Sont-ils assez bien répartis ? Guillaume Ricouart.
Si on s'arrête au mode de fonctionnement et à la législation actuelle, on peut dire qu'il manque de moyens et d'effectifs. Maintenant, je pense qu'il faut surtout avoir une vraie réflexion sur les choix politiques et en termes de délinquance qu'on va avoir. Vous me parliez tout à l'heure des trafics de stupéfiants.
Il y a clairement. Je parlais de grand banditisme.
De grand banditisme, c'est vous avez raison, excusez-moi. Dont le trafic de stupéfiants dans les cités. À l'heure actuelle, les policiers tentent d'éradiquer le trafic de stupéfiants avec les moyens dont ils disposent de manière législative ou juridique, ce qui sont clairement insuffisants. On pourra mettre 100 ou 200 policiers dans certaines cités, ça ne suffirait pas à résoudre ce problème-là. Alors effectivement, si on en reste à la législation actuelle, il manque de moyens. Maintenant, si on a des vrais choix politiques dans la lutte contre le trafic de stupéfiants ou contre le grand banditisme, hein, le trafic des stupéfiants étant une émanation du grand banditisme, alors là, on pourra dire, on pourra vraiment s'interroger sur la nécessité d'avoir des moyens supplémentaires. En fait, ces choix politiques, ça me paraît une donnée essentielle.
Julien de Finsard, les moyens juridiques, on en a parlé, financiers, équipements, humains, sont suffisants pour la justice? Est-ce que on sait qu'elle a de grosses difficultés? Est-ce que voilà, est-ce qu'elle arrive à suivre, tout simplement?
La justice a effectivement de grosses difficultés. Si il y a bien un domaine dans lequel les moyens de la justice, en tout cas humains, ont été renforcés, c'est bien sûr la lutte antiterroriste, qui ne cesse de voir ses effectifs augmenter. Ce que je voulais dire pour rebondir sur le fait que le terrorisme est une émanation de la délinquance de droit commun, le terrorisme, son lit est aussi sur la fragmentation de la société, sur voilà les.
C'était un discours d'Emmanuel Macron depuis le début de sa campagne d'ailleurs, qui tentait d'expliquer. On lui avait reproché de vouloir.
Le problème, c'est que la loi antiterroriste qui vient d'être prise, précisément, ajoute une segmentation dans la société. Je prends l'exemple des périmètres de protection qui ont été instaurés dans la loi. On sait très bien que ces contrôles, donc en fait c'est un contrôle des entrées dans un périmètre, sans identification d'un comportement précis, peuvent dévier sur des contrôles discriminatoire ou en tout cas à raison de
le but de cette loi, c'est que chaque contrôle vise l'ensemble des personnes dans le périmètre concerné. Ça pourra concerner une personne, une famille qui ira au stade ou à un concert, et je pense pas que ça choquera les Français qu'on contrôle l'ensemble des individus qui vont à ce concert ou à ce match de foot.
Oui, mais est-ce que dans la mesure où les lieux de spectacle par exemple sont très rapprochés dans Paris, est-ce que c'est pas des quartiers entiers qui seront sur le périmètre de sécurité?
Après ça sera pas à l'appréciation n'importe qui, ça sera quand même à l'appréciation du préfet de police ou d'un préfet de département. Donc je pense qu'en termes d'autorité administrative et de garantie des droits, on est quand même suffisamment protégé.
Mais on a bien vu aussi dans les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence, donc avant l'entrée en vigueur de cette loi, que les perquisitions, les assignations à résidence, enfin toutes les mesures qui ont pu être prises dans le cadre de cette loi, elles peuvent avoir... Je dis pas qu'elles ont toujours eu, mais elles ont pu avoir des dérives qui crispent, à tout le moins, et qui peuvent avoir pour conséquence de stigmatiser une partie de la population, et en tout cas de générer des tensions. Enfin, on va regarder comment ce que fait son voisin.
Mais ça, c'était dans le cadre de l'état d'urgence. Dorénavant, on est sorti de l'état d'urgence.
Sauf qu'en réalité, on est dans l'état d'urgence permanent.
Mais... Guillaume Ricouard, on s'en rend compte, hein, depuis les attentats du Bataclan, le danger ne vient plus tellement de l'extérieur et de cellules organisées depuis la zone irako-syrienne. De toute façon, l'organisation État islamique a perdu beaucoup de ses capacités de nuisance dans son territoire. Ça vient plutôt du territoire français. Est-ce que en termes de surveillance de la radicalisation, la justice et la police peuvent travailler ensemble? Est-ce que justement, c'est pas là le nouvel enjeu, le renseignement, la surveillance?
Oui, tout à fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a aussi besoin nous-mêmes d'évoluer, tout comme je pense que la justice a sur certains points à se remettre en question. Nous, services de police, on a sur certains domaines à évoluer. Et notamment la question de la surveillance de l'islam radical, elle passe davantage par un renseignement de proximité. Et ça implique aussi d'autres aspects de la société. Vous parliez tout à l'heure des dimensions sociales des origines du terrorisme. Je pense que la question de l'autorité à l'école, la question de l'autorité parentale, c'est des questions très importantes. Regardez tous les attentats que je vous ai cités tout à l'heure. Bataclan, Charlie Hebdo, Barcelone, à chaque fois on a des fratries qui sont concernées. Ça signifie bien quelque chose en termes de fragilité sur le plan social et familial.
Merci Guillaume Ricouard, merci Julien Pinsard d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Arthur Tossou et à Florence Ponce qui vous ont fait venir. Merci à Valentin Vaner qui a mis ce débat en onde. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.